Radio.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le navire pirate de votre radio préférée. On est ensemble pendant environ 45 minutes, on arrive avec un tout petit peu de retard, mais tout va bien. Aujourd'hui, dans notre bateau féministe, tant qu'il le faudra, on vogue jusqu'au Mexique, parce qu'au Mexique, les militantes féministes sont bien vénères et en colère, et elles le montrent. Pour tenir la barre avec moi ce soir, Agathe est là. Salut Agathe.
Salut tout le monde.
Mais alors, que se passe-t-il au Mexique? Les chiffres font froid dans le dos. En 2019, on compte 3825 Mexicaines qui ont été assassinées et seuls 976 cas ont été reconnus comme féminicides depuis début septembre. Et malgré un contexte de pandémie mondiale, des féministes sont entrées dans la Commission nationale des droits de l'homme au centre de Mexico. Elles occupent le bâtiment en soutien aux proches des victimes d'abus sexuels, de féminicides ou de disparitions forcées pour dénoncer l'inaction des autorités face à la forte progression des violences de genre. Ce bâtiment est devenu un refuge non mixte pour une dizaine de mères de victimes aux côtés d'une cinquantaine de militantes féministes. Au Mexique, les féminicides, la criminalisation des mouvements sociaux, les conditions de détention des prisonnières sont les dures réalités auxquelles les femmes sont confrontées. Mais c'est aussi le lieu de grandes mobilisations dans tout le pays contre les violences faites aux femmes. Et puis, d'amples mouvements sociaux, des populations indigènes se construisent, comme en témoigne le mouvement zapatiste au Chiapas. Les femmes indigènes se sont organisées et l'articulation des revendications des droits des peuples autochtones avec ceux des femmes constitue un renouvellement des questionnements politiques et féministes. Et c'est ce qu'on va voir ensemble ce soir. Agathe, tu as quelqu'un à nous présenter?
Oui, alors pour discuter de tout ça, on a la chance ce soir d'avoir avec nous Sarah Velasquez-Orcel. Salut Sarah.
Salut.
Alors, tu es chercheuse en histoire de l'art spécialisée sur le Mexique et militante féministe. Et avant de passer à la suite, peut-être est-ce que tu peux te présenter en deux mots et nous parler de tes liens avec le féminisme et le Mexique?
Oui, alors moi, je suis franco-mexicaine. Je suis aussi militante féministe et décoloniale à Paris. Et on avait organisé le 11 septembre une action au Trocadéro en soutien aux occupantes de la CNDH. À Mexico, on est allé du coup au Trocadéro, puis devant l'ambassade pour pouvoir montrer notre soutien à elle et aussi essayer de visibiliser cette action historique qui est menée par des femmes racisées et précaires qui ont réussi un tour de force, c'est-à-dire de prendre en possession un bâtiment public dans un pays très répressif.
Merci, et je pense que c'est parfait comme présentation. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose?
C'est un peu long.
Non, il n'y a pas de souci. Tu voulais rajouter un truc?
Sur l'action et sur les femmes qui occupent ça, je voudrais encore plus montrer leur courage et la force qu'elles ont parce que je veux rappeler qu'au Mexique, c'est un État extrêmement répressif et la police viole et violente de manière systémique les militantes. Et je voulais parler très rapidement juste de ce qui s'est passé la semaine dernière lors d'une manifestation féministe à Cancun où il y a eu des militantes qui se sont fait tirer à balles réelles par la police, donc pour vraiment appuyer sur le courage qu'ont ces femmes de militer alors qu'elles risquent leur vie face à la police et au machisme en général.
Merci beaucoup pour cette introduction, c'est exactement ce sur quoi j'allais rebondir sur ces tirs à balles réelles de la police. On va pouvoir y revenir un peu plus tard. Merci beaucoup.
Pour continuer de s'informer sur le Mexique, qui n'est pas tout à fait à côté de chez nous, Agathe, il paraît que tu as quelques recommandations de comptes Instagram à suivre pour s'informer sur la situation là-bas.
Oui, parce que l'a souligné Sarah quand on préparait l'émission par rapport à l'impact que l'action qu'elle a menée là à Paris a pu avoir ou ne pas avoir. C'est vrai qu'une des difficultés pour nous, c'est de suivre ce qui se passe au Mexique parce que ce n'est pas vraiment couvert par les médias en France. Et donc, du coup, pour ça, je voulais vous présenter deux comptes Instagram de photographes qui sont sur place et qui documentent les luttes féministes actuellement au Mexique. Alors, le premier, c'est @sash. On vous mettra toutes les coordonnées ensuite demain sur Twitter, etc. Et le second, c'est Usagi Co. Et pourquoi ces comptes, ils sont importants pour suivre ce qui se passe au Mexique, au-delà du fait que ce n'est pas vraiment couvert en France, c'est qu'ils présentent un vrai point de vue. Ces deux photographes, elles font vraiment partie de la lutte, elles le revendiquent dans leurs photos, dans leurs stories, et elles nous permettent de nous donner un aperçu depuis l'intérieur, parce que oui, on y suit les manifestantes et les manifestants dans les cortèges, face aux policiers, à travers des photos très classiques de manifestations, mais on suit aussi ces manifestantes, ces militantes dans leur quotidien, dans la préparation des actions, dans les faits qu'elles peuvent donner et faire dans ce bâtiment qu'elles ont pris notamment, et dans les moments de peine, mais aussi de grande joie. Et c'est ça que je retiens et que j'aime beaucoup dans ces deux contes-là, c'est qu'ils montrent vraiment à quel point les luttes féministes, c'est aussi de la joie. C'est la joie d'être ensemble, c'est la joie de lutter, c'est la joie d'être vivante et de se battre. Alors, comme vous l'aurez un peu compris, ces photographes, elles ont vraiment la confiance des manifestantes et elles partagent vraiment leur intimité avec elles. Et on le voit à travers leurs photos qui sont vraiment magnifiques. Et pour la petite anecdote, par exemple, pas plus tard qu'hier soir, je crois, elle publiait des photos d'une demande en mariage qu'une des manifestations a adressée à sa copine en pleine manifestation. Et régulièrement, elle publie aussi des portraits d'activistes depuis le squat. Et du coup, c'est à la fois très militant et très poétique. Ça me fait beaucoup penser au travail de Tai Calanda en France, qui documente les luttes féministes et qui est aussi un conte que je vous recommande. Et avec ces deux contes-là mexicains dont vous parle, on a vraiment l'impression de partager cette lutte jour après jour, et je vous les recommande vraiment. Donc c'est At Sash, Sashe, et l'autre c'est At Usagico, Usagi tiré du bas KO. Voilà.
Merci Agathe pour ces recommandations. On va maintenant écouter l'interview que Circé, une autre pirate féministe du navire, a faite avec Rocio, une militante féministe mexicaine. Ensemble, elles reviennent sur la mobilisation féministe au Mexique, mais pas que. Elles parlent aussi des féminicides, de la répression des manifestations, des communautés indigènes et zapatistes et de solidarité féministe. On écoute ça.
Bonjour Rocio, merci d'avoir accepté cet entretien pour Radio Pirate. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos auditrices?
Oui, merci beaucoup de l'invitation. Je suis Rocio Martinez Trujul, en Sicile, c'est traduit mon petit tour de matin. Et donc, je suis historienne de l'art, anthropologue, j'ai enseigné à l'université de Chiapas. Surtout, je m'intéresse à la fête qui se déroule dans les communautés indiennes, mémoire et autonomie, chez les peuples mayas. Donc, les femmes ont une grande importance dans l'histoire. Et donc, ça me branche à différents collectifs dont je appartiens, spécialement la Sexta des femmes à San Cristóbal de las Casas et la Sexta Otra Europa, qui s'est créée après le confinement en mars, et où il y a une articulation de plusieurs collectifs des femmes et des réseaux au Mexique, mais avec le monde aussi. Et donc, voilà mon travail à l'université, ces branches aux pratiques des femmes du monde indien, mais aussi des femmes non indiennes, qui luttent pour la construction des liens et des affectivités entre toutes les personnes, femmes et dissidents, et avec les hommes aussi, bien sûr, qui sont partie de notre convivialité pour se constituer différemment dans cet espace qui ne nous laisse pas beaucoup de place aux femmes dans le monde et qui voudrait être soit anticapitaliste et antipatriarcal. Voilà, je me présente comme ça.
Merci beaucoup, ça fait beaucoup de choses. On va essayer de revenir sur chacune. Mais avant toute chose, je voulais te poser la question, c'est quoi les problématiques des femmes au Mexique et dans les communautés au Chiapas actuellement? Il y a des problèmes très spécifiques ou des actualités auxquelles il faut, auxquelles tu penses que ce serait bien d'informer nos auditeurs et nos auditrices qui sont, qui ne connaissent pas forcément la situation au Chiapas et au Mexique?
Bon, mais déjà, il y a deux côtés toujours par rapport à la situation des femmes au Mexique et au Chiapas. Le Chiapas, en fait, depuis le dernier siècle, le 19e siècle, fédéré au Mexique. et une histoire très particulière et très intéressante en relation à l'Amérique centrale. Et donc, ça a du mal à entrer dans l'idée de Mexique, même avec cette histoire récente qui déclenche la révolution 94 avec le soulèvement zapatiste, qui fait voir que le Chiapas est complètement isolé de tous les chemins et la vie qui se déroule au Mexique avec d'autres dynamiques. Le processus sud-est est très oublié de la nation mexicaine et donc les indigènes sont partie des collectivités qui existent de vie très créative et qui donnent aussi l'histoire de notre pays à ce Mexique qui est bien mais qui n'est pas prise en compte de la même façon qu'on appelle les citoyens métis, par exemple. C'est un côté où les femmes ont une double souffrance, là, parce que déjà, en tant qu'indigène et en tant que femme, elles sont oubliées et la revendication qu'ils font des zapatistes et la lutte des femmes, par exemple, et la participation des femmes depuis le mouvement a été très, très, très importante. Parce que la dramatique situation que l'on vit dans le pays à ce moment-là implique beaucoup de féminicides et des violences contre les femmes. Et les statistiques restent très officielles, par exemple, qui parlent des 10 assassinats par jour en moyenne, c'est vraiment un scandale. Et la répression des femmes qui manifeste, par exemple, maintenant, il y a des nouvelles de San Cristóbal de las Casas et de Cancún à Quintana Roo de la dernière semaine. Et il nous fait voir qu'il y a un État qui réprime les manifestations qui devraient être libres, qui agresse les femmes pour le simple fait de se manifester, de dire des dénonciations. Par exemple, dans le cas il y a 10 jours, a demandé la justice pour la mort d'Alexis, qui était une jeune fille de 20 ans, qui avait disparu samedi dernier et qui a retrouvé mort plus tard. Et comme ça, il y a tellement de cas, et c'est vraiment dramatique. D'un autre côté, il y a une partie qui sont positives face à toutes ces violences, et c'est la création d'un réseau des femmes dans les luttes des quartiers, dans les villes, dans des réseaux à niveau national, et s'articule pour faire face aux multiples violences qui viennent depuis le foyer, les espaces de travail, et en gros, de l'État répresseur. Et il y a aussi une possibilité de se retrouver entre indigènes et non-indigènes, indiens et non-indiens, de différents secteurs. Et donc, les femmes deviennent vraiment une source d'articulation multiple qui vont donner toute cette mouvance très intéressante depuis la rencontre de 2018 au Chiapas, convoquée par les femmes zapatistes. Nous ont donné beaucoup plus d'espoir pour nous accompagner dans les difficultés que l'on vit dans tous les côtés du monde. Et bien sûr, au Mexique et au Chiapas, il y a toutes ces créativités qui viennent de la montagne, de la forêt, et qui font des convocations invraisemblables que je n'aurais jamais imaginé en tout cas avant, et qui nous met dans une situation des affectivités, qui est aussi, c'est très important, parce que c'est pas, c'est dans l'intellectualité qu'on va se lier, c'est surtout dans l'affection. Donc, je pourrais te dire ça, et après, c'est vrai que c'est difficile de faire le résumé de toutes les choses terribles qui se passent au Mexique. à ces moments-là. Mais aussi, il faut focaliser les choses positives, surtout parce que c'est la lutte des femmes qui va à donner une possibilité de transformer toutes ces choses destructives par des choses créatives et des liens qui vont renforcer la possibilité d'échanger un peu ces agressions.
Tu parles beaucoup de... Enfin, je trouve ça très intéressant parce que tu parles beaucoup de liens et de réseaux et tu parlais que tu militais au sein de la Sexta. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est, si c'est plus une organisation, un réseau, ça prend quelle forme et d'où c'est né un peu?
Ok, oui, en fait, on parle la Sexta comme ça, comme si tout le monde connaissait qu'est-ce que ça veut dire, la 6e déclaration de la forêt Lacandone. C'est en fait la Sexta, la 6e, quand on parle des femmes de la 6e, de la Sexta, fait référence à la 6e déclaration de la forêt Lacandone émise par les zapatistes en juin 2005 et appelle à articuler les luttes anticapitalistes et antipatriarcales au Mexique, mais aussi dans le monde entier. Et dans la Sexta nationale, s'est développé tout un réseau de femmes qui s'appelle les femmes de la Sexta. Et dans la Sexta internationale, après le confinement en mars, que je viens de dire, s'est créé ce réseau de femmes qui vont se mettre en relation avec les femmes en Amérique latine, en Europe et en différentes parties du monde. Dont les femmes kurdes aussi, qui sont partie de cette lutte internationale, et l'idée d'appartenir à cette Sexta répond aussi à cette convocation de ne pas pour fusionner les mouvements, et pour nous donner la possibilité d'avoir plusieurs directions dans notre agir, je veux dire, et qui est n'a pas du tout une affiliation spécifique, mais qui cherche donner une hétérogénéité, une possibilité d'autonomie à la façon de faire de chaque groupe collectif, réseau des femmes de la Sexta. Et donc, du coup, anticapitaliste et patriarcal, c'est les points qui nous convoquent vraiment pour faire donc cette articulation de laquelle je parle, mais sans nous fusionner et sans donner le même destin à chaque lutte. Parce qu'on est toutes différentes. Donc, il y a toujours une possibilité d'inclure les femmes, les dissidents et les gens que les zapatistes appellent autres, pour avoir un différent type de relation avec le monde. Mais le monde, pas seulement avec les personnes, avec les centres de vie, les géographies, et chacun a lutté depuis son endroit de vie, son contexte culturel, et avec ce que chacun a comme possibilité d'agir.
Ce qui m'impressionne, c'est le côté à la fois très horizontal et à la fois très local et international. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et qui ne doit pas être facile à articuler, d'avoir ces deux visions. Et je me demandais, puisque tu as participé à l'organisation de plusieurs rencontres féministes au Chiapas, et notamment en 2019, et comment ça s'exprimait justement cette création parce que du coup c'était une rencontre féministe, mais comment réussir à articuler un peu des situations très local et cette rencontre était internationale, donc il y avait vraiment des militantes avec des contextes très divers. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette rencontre et de comment s'articule cette lutte?
Oui, bon, mais tu as participé à la rencontre de 2019, mais avant il y avait la première rencontre internationale politique, artistique, sportive et culturelle des femmes qui luttent, organisée par les femmes zapatistes en fait le 8-9 mars 2018 au Caracol 4 de Morelia, de Chiapas, et entre la montagne et la forêt. Et cette rencontre a déjà créé la possibilité que plus de 8000 femmes de différentes parties du monde venaient se retrouver, et se reconnaître, et pour donner une dynamique des mondiale, on va dire, des luttes. Il y avait des réflexions et des ateliers et plusieurs activités, comme j'ai dit, sportives, culturelles, artistiques, bon, où tout est possible. Et donc, on était ravis d'avoir cet espace de travail, des rencontres et des épanouissements. Et on avait dit qu'on allait faire une rencontre pour l'année 2019. Et on était vraiment dans la dynamique de créer encore une possibilité de se voir chaque année après 2018. Mais à la fin de l'année 2019, les femmes sapatistes nous ont annoncé qu'il n'y avait pas de conditions pour organiser la deuxième rencontre des femmes pilotes à cause des offensives et des violences qui se sont perpétrées chez les sapatistes. Par différents niveaux des mauvais gouvernements. Il y a eu une dénonciation le 1er janvier 2019 où c'était plus possible d'organiser rien du tout parce qu'il n'y avait pas les conditions. Toutes ces violences se sont converties en répression des communautés qui encore maintenant commencent à avoir des répercussions et on a pensé que ce n'était pas possible de se trouver avec les sapatistes. Mais elles nous ont dit, organisez-vous, faites-vous comme vous voulez, prenez-vous l'expérience de notre rencontre, faites-vous, depuis votre géographie, les rencontres entre vous, parce que c'est indispensable de se parler, se dire comme on dit, de se raconter ce qui passe dans notre entourage plus proche, et après, partager ça entre toutes les femmes. Et c'est de cette façon que à Saint-Christophe de las Casas, on s'est réunis 39 organisations de l'État de Chiapas, dont les femmes indigènes et non-indigènes participent à une organisation collective individuelle en tant que personne, et que nous sommes investis pour organiser une petite rencontre dans la ville, l'espace que nous apprêtait aussi Codemour, que c'est un espace de lutte. C'est très longtemps où il y a différents réseaux de femmes qui participent et qui sont liées à différents endroits de lutte. Et donc, dans le mois de mars 2019, se sont organisées plusieurs rencontres de femmes dans différents états du Mexique pour maintenir allumées. Nous avons fait comme cadeau les femmes sapatistes en 2018 à la grande rencontre à Morelia. C'est une petite bougie. Qu'elle ne s'éteint pas, justement, et qui transmet les sapatistes aux femmes qui luttent dans le monde, pour que jamais une seule femme dans le monde ne se sente pas seule. Et donc, du coup, ça nous a donné le début de l'objectif de notre rencontre, et tout le monde a été convoqué pour allumer cette lumière encore une fois, ou peut-être pas la laisser éteindre. Et c'était à niveau de la symbologie une idée qu'on est toutes réveillées et qu'on ne veut pas laisser étendre notre lutte, notre sentiment et notre façon d'agir tout ensemble. Et voilà, je ne sais pas si ça explique un peu comment s'est organisée la rencontre 2019. On a eu finalement dans un grand paquet d'activités qu'a organisé les CTLN à la fin décembre. Ils ont décidé qu'ils étaient intimidés et ils ont fait ce qu'ils appellent le combo pour la vie, que c'était la rencontre de femmes et que c'était aussi un espace où ils nous ont montré que l'espace qu'ils nous donnent pour venir à dénoncer, à dire tout ce qu'on dit, des choses terribles, aussi passe pour nous reconstituer, pour faire la fête, pour pouvoir comprendre que quand on est ensemble, on a une force supplémentaire. Et donc, ils nous ont permis, dans cette rencontre de trois jours, hein, que finalement, c'était possible de faire, premièrement, faire toutes les dénonciations des choses terribles. La deuxième journée d'organiser des danses et des rituels qui nous permettent de nous mettre ensemble, de nous connaître un peu plus. et la prochaine journée, commencer à envisager quelles sont les propositions pour commencer à changer le climat de notre territoire, la relation qui nous construisent, pour laisser de côté toutes les rivalités, toutes les questions qui touchent au monde capitaliste, qui n'ont rien à voir avec les formes de construction dans la façon de se gemeler, d'hermanarse, d'être compagnon, d'être en confiance, de découvrir qu'avec l'autre, on est capable de prolonger les liens qui sont possibles de transformer en entourage avec beaucoup plus d'honnêteté et de capacité d'agir pour développer un monde meilleur, hein, ou en tout cas avec beaucoup plus d'affection. Et en tout cas, c'était vraiment une surprise, cette troisième rencontre. En 2019, il y a aussi un festival de cinéma où sont venus différents films et cinéastes de différentes parties du monde qui sont présentés avec le cinéma comme un moyen de communication, mais pas seulement de communication, d'amener les âmes qui sont d'autres parties du monde pour accompagner toute cette organisation zapatiste qui, d'ailleurs, depuis août 2019, va développer de nouveaux espaces et de lutte et qui va créer de nouveaux caracoles. Avant, il y avait que 5 caracoles qu'on appelle comme ça aux espaces où il y a la possibilité de se réunir personne dans tout le Chiapas, dans ces 5 caracoles qui vont rassembler les projets d'éducation, de santé, les axes de l'autonomie, la production, tout ça qui ont développé les zapatistes depuis 1994. Et ils nous ont annoncé qu'à la place de se laisser intimider en fait, par l'État et par toutes les violences qui se sont commises depuis qui se sont dénoncées le 1er janvier 2019, ils se sont élargis. Ils ont dit, on a besoin d'être plus grand, on est beaucoup plus qu'avant, et donc on va avoir des nouveaux territoires, et donc on nous annonce la fête, de ces réjouissements qui nous amènent à nous constituer beaucoup plus qu'avant dans des nouveaux territoires. Et donc ça a été aussi la fête, l'inauguration des nouveaux caracoles, des nouveaux espaces, des constructions d'écoles, et des espaces des cliniques de santé, des coopératives, des productions d'art zapatiste et des vêtements des différents iconographies, disons, des endroits où elles sont les femmes, les coopératives des femmes, qui se développent aussi énormément. Et moi, c'était un mois de décembre très, très rempli de surprises et des capacités d'action, de construction pour détruire, justement, le monde qui détruit. Donc, c'est un paradoxe très intéressant. Vous voyez s'élever des poteaux énormes, je ne sais pas combien de mètres d'auteur, pour faire un auditorium où entrer tout le monde à voir le cinéma. C'est incroyable. Sur les vaches, que c'est pas où on allait manger, où il y avait des cafétéria, où il y avait des choses construites par les gens, en sachant qu'eux, avec leurs mains et leurs pieds, sont capables de construire tout ça. Et nous aussi, on a la force, en tant que femmes, de soutenir cet espace de construction qui donne pas seulement des forces, mais aussi un grand espoir pour pouvoir penser que on est petit, tout petit, et on est pas petit que ça, en fait.
Oui, c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup avec les zapatistes, et un peu chez toi aussi, en fait, c'est de réussir à vraiment créer des liens et des réseaux et de porter la voix, et une voix anticapitaliste et antipatriarcale, assez loin, et avec assez de force, et pendant longtemps, enfin, les zapatistes, ça fait depuis depuis avant les années 2000 que ça existe. Donc j'ai un peu envie de demander c'est quoi le secret, c'est comment ça marche, parce que c'est quelque chose qui est porteur de beaucoup d'espoir. Enfin voilà, c'est un peu quoi le secret pour réussir à un peu développer cette lutte un peu permanente. Pour toi, c'est quoi la un peu la clé de la réussite de cette lutte heureuse, on va dire?
Moi, je crois qu'il y a des énormes explications dans l'histoire, dans l'histoire des peuples indiens qui ont créé aussi le Conseil indien des gouvernements, le CNI, bien sûr, créé en 1996, mais qui, depuis toute leur vie, depuis la conquête et après la colonisation, ont permis de continuer à vivre en tant que population indigène dans l'idée des constructions des collectivités. Il y a les droits collectifs, il y a la façon de rendre justice, la façon transmettre la parole pas d'une personne mais d'une collectivité. Il y a beaucoup de choses qui sont dans l'histoire des peuples indigènes, dans leur façon de faire, de s'organiser et de ce qu'on appelle la tradition. En fait, ce que les zapatistes appellent la bonne tradition, parce que c'est aussi la mauvaise tradition, comme elles disent, qui n'aide pas beaucoup à avoir la conscience. Mais la bonne tradition, c'est celle-là qui réveille notre conscience, ce qu'ils appellent le tulel. Le tulel a à voir avec une mémoire profonde, dans la longue durée de l'histoire des peuples originaires, qui a créé des réseaux de communication dans la géographie qu'on appelle mexicaine maintenant, mais qui est une géographie des Amérindiens, aussi des peuples de l'Amérique, si on veut élargir la chose. Et donc, du coup, là, il n'y a pas un secret, mais c'est une espèce de rituel où les peuples indigènes se recréent en permanence parce qu'ils aiment bien être ce qu'ils sont. Et après, la modernité a coupé tout ça et a dit non, il faut être moderne, des femmes et des hommes de raison. Et l'école, c'est très important pour couper ça. Parce qu'en fait, l'école officielle va couper de leurs racines originaires aux enfants qui vont à l'école. Et dans le zapatisme, c'est pour ça que l'éducation, c'est très important. Parce qu'au contraire, on va raciner les gens à ces traditions, les bonnes traditions, et à sa réflexion d'appartenance à un espace de vie qui touche et qui a à voir avec les arbres, avec le soleil, qui devient un soleil père, une lune qui devient une mère lune, et aux enfants qui sont des étoiles. Et c'est tout un peu en analogie à l'univers où on habite, et on respecte, et à qui on demande la permission si on veut transformer quelque chose. Donc, il faut des entités vivantes qui ne nous appartiennent pas. C'est un espace auquel plutôt on appartient et auquel on se réfère en permanence en demandant toujours la permission aux autres avant d'agir tout seul en tant que tête individuelle ou encore séparée du monde. Donc ça crée des liens profonds dans l'histoire de la mémoire, dans la corporalité des personnes depuis tout petit. Les enfants participent de la vie à la milpa, au champ des maïs, et la vie communautaire développe aussi des réseaux d'action pour aller cultiver les choses qu'on va manger, par exemple. Tout ça coupé de la vie moderne, par exemple, chez les enfants qui vont à l'école San Cristobal ou à Saint-Croix, à Mexico, dans la grande ville, bien les choses qu'ils mangent. Les gens en contact avec la terre sont toujours en liaison avec les entités et les phénomènes de la mère terre et leur permet de voir ce monde différemment, surtout comme une subjectivité, pas comme un objet. Et ça change complètement la façon de se lier et la façon de voir les autres. Et donc, du coup, il n'y a pas de secret, il y a vraiment des besoins, des écoutés. Et quand les zapatistes convoquent, ils convoquent aussi pour repenser le sens de la vie, surtout dans des moments difficiles comme ceux que nous vivons maintenant. Et quand il y a des soins, des préoccupés et des coupés, ça provoque une complexité affective, justement. Et c'est dans l'affection et dans la confiance qu'on aurait la possibilité de se rencontrer, comme on l'a fait pour la grande rencontre des femmes, pour la petite, et en fait pour les multiples rencontres qu'on a eues à la convocation des sapatistes, mais aussi dans nos propres besoins de se rencontrer pour partager des choses qu'on vit et pour lutter contre la méfiance qui constitue le monde de capital, qui va tout verser vers l'argent, qui va tout destiner à des solutions économiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vraiment envie comme personne à niveau de relationnel.
Oui, il y a une vraie volonté de changer le rapport au monde, de préserver contre un rapport au monde et des subjectivités capitalistes. Je trouve ça vraiment inspirant. Et du coup, c'est quoi la suite, un peu les prochaines étapes? Tu parlais de la Sexta Otra Europa. C'est quoi le but? C'est de construire des caracoles en France? C'est quoi?
Oui. Bon, en fait, c'est toujours une surprise quand il y a les communiqués qui annoncent des choses incroyables, invraisemblables. C'est une folie. Mais en fait, il y a des folies qui sont nécessaires de mettre en place pour penser que c'est possible de construire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées autrement. C'est comme l'art qui a la capacité de transformer les couleurs, les formes. Et du coup, on a cette possibilité matérialisée dans un petit tableau. Et du coup, on peut regarder le monde aussi différemment. Et on peut se dire, et on peut rêver que ces tableaux deviennent quelque chose de pareil dans le tableau de la vie. Et maintenant, ce qu'ils ont annoncé les sapatistes, c'est qu'ils voudraient aller dans différents coins du monde, dans les différents continents, partager les luttes, à se reconnaître dans les luttes du monde, à sortir de Chiapas et de Mexique avec des commissions majoritairement des femmes, où on aurait la possibilité de se rencontrer et de se parler directement, en se regardant dans les yeux, justement, pour se dire comment on a lutté et pour savoir qu'on existe dans tout cette lutte du monde. Donc, ils préparent en train d'être rêvés par différents points du monde, la réception des sapatistes, bien sûr, en Europe et dans d'autres endroits, autres continents. Mais ils essayent de devenir un bateau. Et ils essayent d'ouvrir l'horizon, justement, dans l'océan, pas commençant par le début, mais pour la fin, en laissant à la société civile nationale et internationale, la possibilité de s'organiser, de grandir notre lutte et de savoir que peut-être c'est possible que ce rêve de voyager depuis le Chiapas et le Mexique, un bateau qui va arriver dans les eaux, dans les océans d'autres cultures, d'autres pays, pour pouvoir se raconter les luttes et se reconnaître hommes et femmes qui luttent dans différentes parties du monde. Et ça fait un sort de défis qui, c'est peut-être une folie, mais que les folies sont aussi importantes hein, pour pouvoir se lancer dans de nouvelles choses dont il semble qu'on a qu'à rester chez nous, à être démunis de nos forces parce qu'il y a plusieurs virus qui circulent. Et donc, du coup, ça fait bouger un peu le corps, la tête et les esprits pour que il y a une possibilité vraiment de s'en sortir de cette pandémie. Ce n'est pas seulement une pandémie virale, mais beaucoup plus large que ça, le capital, de la maladie capitaliste qu'on doit se guérir. Et donc, voilà le bateau qui s'approche pour le moment, peut-être, mais après, on attend bien que cette initiative va arriver à se concrétiser avec ce voyage pour reconnaître ensemble les espaces de lutte ensemble.
Bah, merci beaucoup, c'est des très belles paroles, très inspirantes. Je crois que ça résume assez bien ce qu'on essaye de faire à Radio Pirate de façon beaucoup plus modeste, mais dans cette période un peu sombre, d'essayer d'ouvrir la fenêtre en grand et sur d'autres possibles et qu'on n'ait pas le nez dans la pandémie et dans le capitalisme et dans le patriarcat aussi. Merci beaucoup, Rocio, pour ton temps. Voilà, je sais pas si tu as...
Bon, simplement, merci. C'est toujours avoir la parole, c'est une responsabilité. J'espère que je n'ai pas dit des choses qui ne sont pas encourageantes, je veux dire. C'est toujours quelque chose qui est important. J'ai l'impression de rester avec un encouragement. Ça me fait beaucoup de sympathie, tout ça. Et du coup, il y a des choses qui sont terribles et qu'on dévoile et on dénonce en permanence. Et je crois que c'est super important aussi focaliser nos capacités de création, là, pour dépasser, pour pas rester seulement de la résistance, mais pour faire comme font les sympathistes, aller au-delà de la résistance dans la construction de ce qu'on rêve et qu'on partage avec les autres qui rêvent comme nous. Et dans ce cas, je voulais rester avec ça. Merci beaucoup à vous et félicitations pour votre radio. Et ça, c'est vraiment des initiatives qui nous manquent à tous et à toutes. Et merci à toi pour l'invitation.
Merci beaucoup, Rocio.
Voilà une très belle interview très intéressante de Rocio, militante féministe mexicaine, faite par Circe, une pirate de Radio Pirate. On est toujours avec Sara Velázquez-Orcel, chercheuse en histoire de l'art spécialisée sur le Mexique et militante féministe, pour discuter de tout ce qui a été dit dans cette interview très riche. Je laisse la parole à Agathe.
Oui, merci. Et merci encore, Sara, d'avoir accepté notre invitation. On vient d'entendre donc cette interview. Est-ce que quelque chose t'a fait réagir en particulier quand tu l'as écoutée ?
Je voudrais dire que je trouve que c'est très important de laisser la parole aux apatistes, parce que on ne parle pas souvent en France des luttes des personnes indigènes au Mexique et encore plus celles au Chiapas. Et c'est super important de leur laisser la parole parce que, comme l'a dit justement Rocio Martinez dans son interview, c'est que les communautés indigènes, elles sont opprimées depuis le début de la colonisation. Et même après l'indépendance du Mexique, et qu'elles se sont toujours auto-organisées, auto-gérées pour pouvoir lutter pour leurs droits. Et voilà, et je pense que c'est très inspirant aussi d'écouter ça, parce que ça nous invite à repenser notre façon de militer, de lutter ici en France, et c'est un merveilleux exemple d'autogestion. Et voilà, et de cette façon en fait de lutter et de conjuguer les luttes locales des personnes indigènes, mais aussi de la lutte internationale, parce qu'elle a beaucoup parlé de ce qui a été mis en place après la Sexta par le mouvement zapatiste. Et je pense que c'est d'autant plus important dans un système comme le nôtre qui est mondialisé, et où on doit aussi conjuguer comme ça avec les luttes plus locales. Par exemple en France, mais aussi penser à l'international.
Et je rebondis sur le fait que tu parlais de l'indépendance. Là, en préparant cette émission, tu me parlais des liens entre le sexisme au Mexique et l'histoire même du Mexique et de la façon dont c'est enraciné. Est-ce que tu peux développer un petit peu ?
Oui. Et ben alors, en fait, déjà, il faut rappeler que le Mexique, c'est quand même un pays qui s'est construit dans la violence, puisque le Mexique naît avec la conquête des Espagnols, et c'est eux qui vont fixer les limites du territoire. Et cette conquête, elle s'est faite dans la violence, dans la destruction des cultures, dans la destruction des corps, et aussi dans le viol en masse des femmes indigènes. Et après, en fait, lors de l'indépendance en 1821, quand on étudie la construction de la narration du pays, de son histoire, on se rend compte qu'on va réécrire, en fait, on va réécrire cette histoire de la conquête, et on va accuser une personne plus particulièrement d'être la coupable de la colonisation, et cette personne-là va être une femme. C'est celle qu'on appelle la Malinché, et la Malinché, en fait, ce nom même est devenu une insulte. Malinché au Mexique aujourd'hui, ça veut dire traîtresse. Et en fait, cette histoire de cette femme, c'est l'histoire d'une indigène qui s'appelait Malinali, qui va être offerte comme esclave aux conquistadors, et qui, selon les chroniqueurs, devient la maîtresse d'Hernán Cortés. Et quand on lit les histoires qui sont racontées, par exemple, aux enfants au XIXe siècle et au début du XXe, on présente la Malinché comme une femme vile, manipulatrice, un peu cette idée de la femme fatale qui va manipuler, que ce soit Hernán Cortés, mais aussi les peuples indigènes. Et on va la pointer du doigt comme étant la responsable de cette conquête. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, le mythe de la nation même se construit sur la culture du viol, parce qu'en fait, c'est une femme qui est violée, qui est réduite à l'esclavage et qui devient la responsable, la coupable des crimes qui sont perpétués par les conquistadors, mais aussi par certains aristocrates eux-mêmes indigènes, aztèques, qui vont collaborer avec les Espagnols. Et donc, c'est important de rappeler ça, de rappeler qu'en fait, les bases et la façon dont on raconte l'histoire au Mexique est basée sur la détestation d'une femme qui serait responsable de tous les maux.
Ouais, la diabolisation, c'est vraiment super chouette comme exemple. C'est vrai que ça me fait plaisir et chaud au cœur qu'on puisse reposer ce mythe-là de la Malinché dans l'émission, parce que c'est un peu réparer tout ça aussi d'en parler et de la convoquer ici. Et est-ce que tu aurais d'autres exemples en tête, notamment dans ton domaine sur l'histoire de l'art? Est-ce que ces relations-là entre le sexisme et l'histoire même du Mexique, tu le retrouves dans tes études?
Alors, en fait, c'est pas marrant, mais en fait, au XIXe siècle, quand on va construire l'imaginaire national et qu'on va le représenter dans la peinture, on va pas trop avoir l'image de la Malinché, elle va rester un peu écartée, et on va pas beaucoup représenter des femmes. Mais de toute façon, généralement, le Mexique va encore plus que d'autres pays, ça va vraiment être plus l'histoire des grands hommes. Et tous les héros de la nation sont des héros, ils ne sont pas du tout des héroïnes. Et on le voit même quand on parle des grands mouvements après au XXe siècle avec les muralistes comme Diego Rivera, Siqueiros et Orozco, c'est que ces trois mecs qui vont s'autoproclamer comme étant les porte-parole du peuple alors qu'ils ne sont pas du tout indigènes eux-mêmes, et qui vont justement répéter cette histoire faite de grands héros. Et en plus, c'est surtout eux qui vont commencer à représenter cette diabolisation de la Malinché dans les tableaux, où on va avoir beaucoup plus une représentation un peu sous les traits de la femme fatale, en fait.
Elle va être sexualisée, en fait.
Oui, voilà, c'est ça, elle est sexualisée. Et après aussi, ce qui est intéressant, c'est que pendant la prise de la CNDH au Mexique, les militantes, elles vont justement taguer certaines représentations de ces grands hommes de l'histoire mexicaine, entre guillemets. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que le président mexicain va tout de suite, au lieu de parler de ce qui se passe, va condamner le fait qu'elles aient tagué ces grands hommes et qu'elles aient taché l'histoire mexicaine, parce que en fait cette histoire mexicaine est, enfin les représentations de ces grands hommes, c'est très lié avec toute la construction de la nation. Par exemple, le président mexicain, quand il pose pour sa photo officielle, il va poser à côté d'un portrait d'un illustre homme de l'histoire mexicaine, et c'est vraiment en fait une histoire qui est plus construite sous le fait que ce soit que des grands hommes qui fassent cette histoire-là, et on ne laisse pas la place aux femmes dans ce récit.
C'est exactement sur ça que j'allais rebondir pour faire le lien avec l'actualité. Arrête-moi si je me trompe, mais il me semble même qu'elles ont décroché certains tableaux, elles les ont tagués et elles les ont mis en vente pour alimenter les caisses de soutien. Et on voit vraiment que c'est au-delà d'être une action, etc., c'est vraiment de la réappropriation des féministes de leur histoire, de l'histoire de leur pays et de l'histoire de leurs sœurs. Et c'est vraiment hyper, hyper fort et hyper émouvant. Et d'un point de vue un peu plus personnel, pour conclure peut-être, est-ce que toi tu nous disais que tu avais de la famille au Mexique, est-ce que tu veux un peu nous parler de la région et nous dire si tu sais si toutes ces insurrections féministes, parce qu'il y a Mexico, mais il n'y a pas que Mexico, c'est quelque chose qui est palpable et qu'on ressent dans le pays actuellement?
Alors oui, actuellement, tu sens que depuis quelques années, il y a un changement qui s'opère. Moi, ma famille, c'est une famille assez rurale et malheureusement, il y a eu des histoires dans ma famille de violence. Il y a des femmes qui ont subi énormément de violence de la part de leur mari. Et c'est vrai que ces mêmes femmes-là, avant, n'osaient pas vraiment se plaindre parce qu'en fait, on n'en parlait pas vraiment dans les médias mexicains et dans l'opinion publique. C'était toujours l'idée de la femme mexicaine qui doit être dans l'abnégation et qui doit subir tout ce qui lui arrive dans la vie et que son rôle, c'est de porter son mari et de subir ses coups. Et tu ressens que depuis quelques années, il y a un changement en fait et qu'il y a de plus en plus de femmes qui reprennent le pouvoir et qui osent faire des choses qu'elles n'auraient pas fait avant, de divorcer, de protéger leurs enfants. Et voilà, et surtout au Chiapas, comme parlait Rocío Martínez, t'as beaucoup, enfin avec les mouvements zapatistes, ça a beaucoup changé de ce niveau-là, parce que t'as de plus en plus de femmes qui vont être au pouvoir de certaines communautés et qui vont gérer elles-mêmes certains territoires.
Super, ça fait vraiment une très belle conclusion. Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et puis pour finir en douceur cette émission, on va écouter une chanson très souvent reprise dans les manifestations mexicaines qui s'intitule, désolé pour mon accent espagnol, je n'ai pas fait espagnol, mais qui s'intitule Canción sin miedo. Voilà, pour finir, avant de se quitter, on vous rappelle les numéros importants si vous rencontrez des difficultés pendant ce confinement. Alors le 3919 pour les violences conjugales, le 0800 05 95 95 pour les violences sexuelles, le 119 pour l'enfance en danger et le 0800 08 11 11 pour contacter le planning familial sur les questions de sexualité, de contraception et d'IVG. C'est ici que notre navigation s'achève. Merci à Agathe et Circé pour avoir mené la barque à bon port et merci à Sarah d'être venue nous rendre visite. L'émission sera disponible demain sur vos applis de podcast et demain soir sur Radio Pirate à 21h, une émission sur les jeux et les jeux de rôle. Soyez au rendez-vous. À bientôt, prenez soin de vous et bon vent.